Bon, pendant que les enfants sont en train de descendre, nous allons en commencer ce matin. Et ce matin, il était vraiment important pour moi, et j'ai passé du temps avec Pasteur Sylvain cette semaine, d'expliquer qu'est-ce qu'on vient de faire. Parce que ça peut paraître très étrange qu'est-ce qu'on vient de faire. Et souvent, quand on est habitué de faire quelque chose, on prend pour acquis que tout le monde le comprenne. Puis ce n'est pas nécessairement vrai que tout le monde comprend ce qui se passe. Donc, comme titre de ce matin, je sais que Samuel me court souvent après, ou Donald, c'est quoi le titre de ton message, mais pourquoi consacrer nos enfants? C'est bon? Donc, Sylvain m'a donné un petit texte qu'il a traduit que je trouve vraiment, 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 vraiment central. Je vais vous lire. Pourquoi consacrer, pourquoi la consécration des parents pour les enfants? L'une des façons dont nous nous encourageons cela est la consécration des parents pour leurs enfants. Bien que la consécration des parents ne soit pas un mandat biblique, c'est un moment où notre Église s'associe aux familles en priant pour les parents et leurs enfants. Notre Église s'engage à accompagner les parents et à renforcer ce qu'ils enseignent déjà à leurs enfants à la maison. C'est aussi l'occasion pour les parents de se consacrer publiquement à la responsabilité d'élever leurs enfants dans la crainte du Seigneur. Notre objectif, lors de la consécration des parents, est d'encourager les parents dans la tâche qui leur incombe d'élever leurs enfants. Parce que le rôle appartient aux parents. Le rôle d'élever un enfant n'appartient pas au gouvernement. Ce n'est pas leur rôle. Mais si nous ne prenons pas nos responsabilités, la nature ayant l'horreur du vide, quelqu'un va le combler. Alors, en tant que parents, il nous faut, je sais c'est un peu directif, mais ça l'est, il nous faut élever nos enfants. Il nous faut les éduquer. Pourquoi, selon vous? Parce que si nous ne le faisons pas, ça va se faire pareil. Et souvent, on va se demander, mais je ne comprends pas pourquoi mon enfant a cette attitude-là. Combien de fois tu parles à ton enfant de ce qui se passe à l'école par jour? C'est quand la dernière fois vous avez pris du temps, vous asseoir avec vos enfants puis lui dire, attends, à l'école du dimanche, là, tu as appris quoi? Tu as compris quoi de ce que tu as entendu? C'est notre rôle. C'est notre rôle en tant que personne et en tant que parent d'être un modèle pour nos enfants. Je disais à un frère cette semaine, il y a deux types de personnes humaines que vous ne pouvez pas berner, vous ne pouvez pas mentir, vous ne pouvez pas les faire croire ce que vous voulez. Votre femme et vos enfants. Ça fait ce que vous voulez. Avant que vous le dites, ils savent déjà. Donc, qu'est-ce que mes enfants pensent de moi à la maison? Est-ce que je suis un pasteur pour eux aussi à la maison? Ou est-ce qu'ils... Ah, mon père est pasteur. Ah, je ne savais pas. Je vois comment c'est juste ça le dimanche matin. C'est bizarre. Il n'est pas comme ça à la maison. Est-ce que c'est l'image que mes enfants ont de moi? Est-ce que quand je parle de la responsabilité des enfants, je regarde ma femme assise en avant et elle est comme, c'est le fun d'entendre ça. Je n'ai jamais entendu parler de ça à la maison. Est-ce que c'est ce que les gens qui sont plus proches de vous vous disent? Vous qui avez des enfants, pensez-y. Prenez un petit temps là. Qu'est-ce que vos enfants pensent de vous? Si on faisait un test de personnalité et vous direz à votre enfant, répondez à ma place, est-ce qu'elle aurait les mêmes réponses que vous avez de vous-même? Pensez-y. Ce matin, pour moi, c'est important de vous dire ça. Parce que je pense que le début d'une société commence dans la famille. Ma personnalité, ma personne, ma construction de personne a commencé dans le berceau. C'est quoi l'image que j'ai eue de mon père? C'est quoi l'image que j'ai de ma mère? C'est quoi l'image que j'ai de ma fratrie? Comment ça se passe à la maison? Ça dit beaucoup de qui je suis. Il est vrai que ce n'est pas toujours la faute des parents ce qui arrive à nos enfants. Il y a des comportements que nos enfants ont. On peut se dire, mais Seigneur, ça ne me ressemble pas. Mais oui, ils sont pécheurs. Et ça, c'est une notion qu'on veut absolument éviter de parler dans la société. Le péché. Mais malheureusement, on ne peut pas l'écarter. Il est en nous. Il est tissé dans nos codes génétiques. Vous allez me dire, mais ça n'a pas de bon sens. Moi, je n'ai rien fait de mal. Moi, il me semble que je suis un bon gars, je suis une bonne femme. J'ai vraiment, écoute, j'ai la classe, je suis respectueux. Et je ne vois rien en moi qui dirait que je suis pécheur. Mais c'est ça ton gros péché, c'est que tu ne le vois pas, le plus grand péché. Vous savez, on aime dire, il n'y a rien de pire qu'un aveugle qui ne sait pas qu'il est aveugle. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui pense qu'il est parfait et qu'il est bon. Tant et aussi longtemps que le Saint-Esprit ne nous révèle pas l'état de nos cœurs, on est complètement aveuglé de l'horreur que nous sommes. C'est dur le message, mais c'est ce qui nous sommes. Je ne dis pas « vous êtes », je dis « nous sommes ». Je ne suis pas mieux que vous. Introduction terminée, on va essayer d'être chrétien, on va prendre la Bible. Tournez avec moi dans Marc 10, s'il vous plaît. Le verset 13 et 14. Voir ce que Dieu dit des petits-enfants. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ce qui les amenait. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne leur empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. » Là, on va se dire, mais attends une minute. Là. Si le royaume de Dieu ressemble aux enfants, il n'y a rien, rien de plus ingrat qu'un enfant. Où sont les parents? Arrêtez de faire semblant, là. Vous faites 1000 piastres d'épicerie, puis il n'y a rien dans le frigo à manger. On se reconnaît, là. On commence à se reconnaître. Vous planifiez un voyage, vous travaillez, vous faites des overtime, vous les amenez en voyage. Oh, mais c'est donc bien plate. Il faut les apprendre à dire merci. Mais à quoi le royaume des cieux? À quoi je dois ressembler à eux pour rentrer dans le royaume? Ça n'a pas de sens. Mais oui, ça a un sens. Vous vous rappelez qu'est-ce que Pasteur Jeff a fait à un moment donné? Il a ouvert des sacs de bonbons puis il a dit, prenez. Est-ce que vous avez vu un enfant qui a fait l'hypocrisie des adultes? Non, non, t'aurais pas dû. Ils se sont lancés et ils en ont pris autant que leurs mains pouvaient en prendre. Mais c'est ce que Dieu appelle à faire. J'ai envoyé mon fils pour sauver tous ceux qui étaient perdus. Et il ouvre ses bras. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et nous, dans notre logique d'adulte, mais attends, c'est trop facile, je ne comprends pas. Pourquoi juste demander pardon puis je serai sauvé? Mais attends, il manque quelque chose. C'est juste ça, c'est trop simple. On est tellement habitué de se compliquer la vie, la simplicité du salut nous échappe. Le salut est tellement simple. Reconnais que je suis perdu et venir vers Jésus et dit sauve-moi. Et ça a l'air vraiment, vraiment trop simple. Vous savez ce que la Bible dit? Dieu a créé l'homme très droit et très simple, mais il s'en est fait beaucoup de chemins et beaucoup de détours. Je viens de dire à des parents, élevez vos enfants selon les voies de Dieu, n'est-ce pas? Et ils ont tous prié. Ils étaient tous d'accord. Ils étaient émerveillés. Et nous aussi, on les a aidés. On s'est levé, on a prié. Mais lisons un autre chapitre, le psaume 139. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas dit 119. J'ai dit 139. Un petit peu moins long. Mais on ne va même pas lire tout, on va juste lire du verset 14 au verset 17. « Je te loue dès que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, sont impénétrables. » Romains 11. On va faire un petit exercice de lecture ce matin. Comme j'aime dire, pour ceux qui n'ont pas lu cette semaine, ben, ça va être fait. Romains 11. On va aller au verset 30 et je vais encore lire pour vous. C'est parti. Donc, au verset 30, « De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Là, les parents, ils viennent se dire, aïe, aïe. Je viens de dire dans les voies de Dieu, mais ils sont impénétrables, incompréhensibles, insondables. Comment je fais maintenant pour tenir ma promesse? Prenons bien plutôt le contexte. Le psalmiste n'est pas en train de dire ici qu'on ne peut pas connaître les voies de Dieu. Il est en train plutôt de s'émerveiller de comment Dieu fait les choses quand il les promet. La même chose pour Paul. Il dit aux Juifs, mais les non-Juifs aussi vont avoir part à cette même miséricorde. Comment? Je ne le sais pas, mais ce que je sais, c'est « Oh, que ses pensées sont impénétrables, insondables, mais il réalise tout ce qu'il dit. » Et ce matin, les parents, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Dieu nous parle. Dieu veut révéler ses plans. Il veut vous montrer comment élever vos enfants. Et à la fin, vous allez avoir quelques mots d'application. La preuve que Dieu nous parle, Hébreux 1, le verset 1 et 2. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Dieu nous parle. On n'a pas un Dieu tellement lointain qui ne dit rien. Notre Dieu, ce n'est pas un arbre qu'on va voir dans un jardin et qu'on parle et qui ne répond pas. Notre Dieu n'est pas une statue de veau d'or qui est immobile et qui ne peut rien faire pour nous. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous dire, il nous a parlé autrefois et il parle encore aujourd'hui par le Fils. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit ce matin à vous, puisqu'il parle encore par sa parole? Qu'entendez-vous de lui ce matin? Ses voix, il les révèle. Il nous dit ce qui va arriver. Pensons à Abraham. Tu auras un fils de ta femme. Mais ma femme, elle est stérile. Que tes voies sont impénétrables. Quand c'est impossible, il le fait arriver. Et Abraham n'y a pas cru. Arrêtons cet évangile. Oh, si tu crois, tu vas être guéri. Si tu crois, tu seras riche. Si tu... Abraham, il a dit, c'est impossible. À tel point qu'il savait que c'est impossible, sa femme l'a dit, chum, sois réaliste. Va vers ma servante, ça va être plus réaliste qu'avec moi. Mais Dieu n'a pas besoin nécessairement qu'on y croie. Oui, la foi est importante, mais il dit Abraham, c'est un homme de foi. Mais est-ce qu'Abraham a tellement cru qu'il a dit « Je me réserve jusqu'à la fin parce que ça va arriver » Dieu accomplit ses promesses parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Quand on demeure, quand on devient fidèle, il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Joseph, il voit qu'il croit, il va être élevé, ses frères vont se prosterner devant lui, ses frères pris de jalousie en le vend comme esclave. Il est en train de finir dans une prison. Et là, vous allez vous dire, mais attends, mais c'était un rêve, c'était un songe, j'avais trop bu cette soirée-là, c'est pas vrai, ça peut pas arriver. Mais Dieu veut nous montrer, peu importe la profondeur de votre misère, c'est moi qui le fais. Et je tiens mes promesses. Pensez à Noé. Hey, je vais construire une arche, je vais faire entrer une paire, famille de chaque espèce et ma famille va avoir un déluge, la terre sera engloutie. Pensez aux voisins qui le regardent construire l'arche pendant des années. Hey, il y a un fou à côté de nous, c'est dommage qu'il n'y ait pas de psychologue, ça l'aiderait. Les promesses de Dieu peuvent ne pas faire du sens à nos yeux, mais ça, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il accomplit tout ce qu'il dit. Abraham, le père de la foi, il va aller faire un sacrifice. Tu m'as promis, Seigneur, je serai père d'une multitude de nations et mon seul fils, je m'en vais le sacrifier. Non, Seigneur. C'est vrai, tes voies semblent insondables, mais tu réalises par ta fidélité, par ta grandeur, par ta magnificence, tout ce que tu promets. On consacre nos enfants parce qu'on est certain qu'il va nous aider à les réaliser. Il va nous aider à les accompagner. Il va nous aider à les amener le plus loin qu'on puisse, parce que lui est fidèle. Ma femme est ici, on a 4 enfants, c'est pas toujours facile. Et un stress qu'on s'est enlevé dès le départ, on s'est dit, ils apprennent à être des enfants comme on apprend à être des parents. On n'est pas nés parents. On est nés avec des parents qu'on est plus chanceux, ou avec un, ou des fois, il y en a qui n'ont pas connu ni leur père, ni leur mère. Mais le modèle qu'on a autour de nous sert de parent. Donc oui, on va faire des erreurs. Certainement, Pierre-Luc, on va en faire. Puis si on les comptait, nos erreurs, en tant que parent, tu serais découragé. Mais Dieu rachète nos erreurs. Dieu nous sauve de nos erreurs. N'ayons pas peur d'élever nos enfants selon les voies de Dieu. Parce que Dieu, lui, il est fidèle. Deuxième point. Ce n'est pas la consécration. La consécration des parents ne remplace ni ne détourne de l'affirmation d'engagement de donner le cadre et le processus d'adhésion à l'Église. On ne les consacre pas en disant « OK, c'est bon, ils sont consacrés, on se revoit à 18 ans. » Non, 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 ça ne marche pas de même. Vous venez de vous engager en vous en disant devant Dieu « Je vais faire en sorte que mon enfant trouve un modèle dans le milieu, trouve une ressource dans l'Église, que mon enfant trouve et voit l'Église, pas parfaite, elle ne l'est pas. Le fait que nous sommes là, ça la rend imparfaite. Mais amenée vers un Dieu qui est parfait. Et d'être un témoignage, de ne pas être non plus dans ce faux évangile de dire tout va bien aller. Vous savez que Jésus n'a jamais promis que tout va bien aller. Lui-même a été à la croix. Prends ta croix et, la promesse est claire, prends ta croix et suis-moi. Ça va aller parce que je suis devant toi, mais je ne t'enlèverai pas la croix. Prends-la et suis-moi. La consécration des parents ne remplace pas le baptême des enfants. L'Église n'enseigne pas le baptême des enfants, mais enseigne que le baptême est réservé aux croyants. Comme je vous disais, on n'a pas baptisé les enfants. On a consacré les parents qui voulaient dire, oui, devant Dieu, je vais élever mes enfants selon les voies de Dieu. La consécration des parents ne place pas votre enfant dans une communauté d'alliance non plus. Le fait que vous les avez consacrés, ils n'ont pas une alliance avec Dieu. Moi, j'aime bien dire, Dieu est le père de tous, mais le grand-père de personne. Ce n'est pas parce que mon père était croyant que automatiquement je suis croyant. Dieu veut sauver chacun d'entre nous. Il veut rentrer en relation avec chacun et chacune d'entre nous. La consécration des parents ne confère aucun type de bénédiction spéciale à votre enfant. Ce matin, votre enfant n'est pas plus béni qu'un autre. Si votre enfant ne va pas recevoir des petits ailes sur le dos, il ne sera pas plus gentil cet après-midi qu'il l'était ce matin, je vous le dis. Ça se peut qu'il ne fasse pas ses nuits ce soir, contrairement à toutes les autres. Rassurez-vous, Dieu est fidèle. Il n'y a pas de transaction spirituelle qui se produit non plus dans cette consécration. La consécration des parents n'affirme ni ne prédit le salut de votre enfant. Soyons rassurés que vous avez un travail à faire à ce niveau-là. Quand Dieu va dire... Quand la Bible va nous dire, faites connaître tous vos besoins à Dieu, faites-le connaître tous vos besoins. Maintenant que je vous ai dit qu'est-ce que ce n'est pas, ça serait cool que je vous dise qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas? La consécration des parents est un moment de notre culte où vous, en tant que parents, vous vous engagez publiquement à élever votre enfant dans la discipline et l'instruction du Seigneur. J'y reviens à la fin. La consécration des parents est un moment où la congrégation, l'Église, s'engage à vous accompagner en tant que parents et à vous encourager à élever vos enfants selon la parole de Dieu. En tant que parents, on va vivre des moments difficiles. On a besoin d'un frère ou d'une sœur qui nous tape sur le dos pour dire, écoute, c'est correct, moi je suis passé par là. La période de l'adolescence est difficile, mais t'inquiète, on va aller prendre un café, une bière, puis je vais t'expliquer, t'es pas seul. Je vais prier pour toi. Et pas une formule chrétienne pour dire, laisse-moi tranquille, j'ai d'autres choses à faire, mais vraiment, je vais prier pour toi. Et je m'en rappelle, avant, il y avait un groupe maison des mamans, et les mamans avaient simplement, ils étaient en bas au sous-sol, et ils se parlaient simplement de comment tu vis ta maternité. Comment tu vis ça, l'allaitement? Comment... Écoute, c'est ça la vie de corps, c'est très pratique. On a une théologie qui est trop souvent spirituelle, mais la vie chrétienne, elle est pratique, elle se vit dans le quotidien, dans le day-to-day, dans tous les jours de notre vie, à tous les aspects. C'est pour ça que Jésus va nous dire, qu'est-ce que vous avez fait si quelqu'un vous dit « j'ai faim » et vous lui dites « va en paix, que Dieu te bénisse ». Il y a quand même encore faim, mais donnez-lui à manger. Un geste simple, un geste pratique et un geste utile surtout. La consécration des parents est un moment où l'Église prie pour vos enfants, que des parents prient pour les enfants en tant que parents dans votre devoir d'élever vos enfants ou votre enfant et prient pour vous en tant que parents dans votre devoir. La consécration des parents est une pratique qui encourage le principe biblique de la communion dans le corps local et la responsabilité des parents dans l'éducation de leurs enfants. C'est ce qu'on vient de faire. C'est aussi simple que ça. Il y a une madame qui veut faire baptiser ses enfants, mais c'est aussi simple que ça. C'est ce qu'on dit. C'est ce que vous allez faire. Et c'est ce que vous allez faire tant et aussi longtemps que vous êtes parents. Merci, mon amour. Tant et aussi longtemps que vous êtes parents. C'est ce que vous allez faire. J'aime pas dire est-ce que vous êtes prêts à le faire parce que vous ne savez pas encore ce que c'est. Mais ce que je vous dirais, c'est de rester auprès de Dieu, puis il va vous aider à chaque étape de votre vie de parent. La valeur d'un seul petit enfant devant Dieu. Matthieu 18, 5, 9. « Matthieu 18, versets 5 et 9. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci me reçoit moi-même. Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Wow! Dur comme parole. N'est-ce pas? La conséquence est grave à ceux qui font du mal à un enfant, un seul. Pourquoi? Pourquoi Dieu porte une attention et un sérieux aussi précieux à nos enfants? Vous savez, Dieu nous donne la possibilité de procréer, de produire un être qui nous ressemble. Et Dieu dit d'en prendre soin de nos enfants. Il va même dire, vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Vous le savez comment le faire. Mais Dieu va mettre en garde à quiconque qui pense et qui fait du mal à un enfant. Il dit, vaut mieux pour lui qu'on lui attache une meule de moulin au cou et qu'on le jette dans le fond de la mer. Ça, c'est une pénitence qui est assez horrible, mais c'est rien comparé à ce que je fais à ces gens-là. Si vous pensez que les enfants sont des moins que rien, oh, ils sont juste là, ils vont avoir de l'importance quand ils vont commencer à réfléchir et être quelqu'un. Ils vont avoir de l'importance quand ils vont commencer à payer de l'impôt. Non. Dieu nous dit, les enfants, ils sont extrêmement précieux. Faites attention à vos enfants. Faites attention à la façon dont vous allez les élever. Faites attention aux modèles et aux exemples que vous êtes à tous les jours devant vos enfants. Faire du mal, pas seulement le mal qu'on peut penser, mais avoir ou être un mauvais exemple, c'est de faire du mal à un enfant. Si le modèle de père que je suis empêche mon propre fils de se marier et d'avoir des enfants, c'est que je lui ai fait du mal. Si le modèle d'homme que je suis pousse mon garçon à renier même son genre, j'ai été un mauvais homme, un mauvais modèle pour mon fils. La personne que je suis, est-ce qu'elle inspire les autres à me suivre? On n'a pas besoin d'être ici pour être un leader. Vous êtes un leader partout où vous êtes. Est-ce que mes filles me regardent en disant, je veux un mari comme mon père? Je veux un homme comme ma mère a eu un. Est-ce qu'ils me regardent en disant ça? Ou est-ce qu'ils me regardent en disant, moi, je ne me marierai jamais de peur de me retrouver dans une maison avec un homme comme mon père? Si vous êtes ce modèle-là, il n'est pas trop tard de changer. Car Dieu aide. Mais ça aussi, c'est faire du mal à nos enfants. Faites attention. Les gens qui sont autour de vous, les enfants que Dieu vous confie, soit à l'école, soit à la garderie, soit dans la famille. Soyez, en tout point de vue, un modèle pour eux. Vous savez, Jésus est aussi sévère parce que le prix qu'il paye pour ses petits-enfants équivaut à ce qu'il demande. Lisons ensemble Matthieu 18, versets 10 à 14. Et bon, merci. C'est trop rapide. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Le prix Le prix payé, c'est la vie de Jésus. Le prix payé pour sauver les perdus, c'est la vie de Jésus. Et les médecins qui sont dans la salle, si je me trompe, vous me le direz, le médicament doit être équivalent au traitement. Le traitement doit être équivalent à la maladie, non? On ne peut pas donner, comme je disais à Noémie, je ne couperai pas ma main parce que j'ai une écharpe. Si le prix payé était le sacrifice à la croix, l'âme de tous ces petits, chacun d'eux, vaut le sang de Jésus-Christ lui-même. Alors c'est normal que Dieu soit aussi strict et aussi sévère à ceux qui font du mal à un de ses petits. Parce qu'il a payé le prix pour tous les perdus. En guise, quelques mots d'application. C'est bien beau, je vous dis tout ça, mais Emmanuel, comment je peux faire cela? Moi, je t'ai bien entendu, j'ai compris ou presque. Il faut que je sois un bon papa, mais comment on fait ça être un bon papa? Comment on fait ça être une bonne maman? Moi, je ne sais pas, c'est mon premier enfant. Je veux, mais comment? Est-ce que tu peux être un petit peu plus pratique? Je lui donne des bisous, je lui donne des câlins, c'est bien. C'est très bien, vous faites un bon début. Vous savez, une des choses que vous allez faire avec votre enfant qui va vraiment, vraiment l'aider, c'est de jamais perdre la communication avec votre enfant. Jamais. De toujours laisser cette place de communication entre vous deux. Même s'il vient vous dire, « Oh, papa, mon jouet est brisé. » Ne lui dis pas, « J'ai pas le temps après. » Non, non. Laisse-moi voir ce que je peux faire. Pour l'instant, je suis occupé, mais je te le promets, je l'arrange après. Ou on va l'arranger ensemble. S'il apprend à vous dire les petites choses, il va vous dire de plus grand. Jamais perdez le lien communicationnel entre vous et votre enfant. S'intéresser à ce que mon enfant fait. On s'intéresse à ce que nos enfants font. Papa, j'ai vu un film, je voudrais qu'on l'écoute ensemble. Assis-toi, prends le temps, regarde. Puis après, pose-lui des questions. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans le film? Pourquoi t'as voulu le regarder avec moi? Qu'est-ce que t'en as compris? Quelle conclusion t'en as tirée? Vos adolescents vous disent, « Ah, papa, moi, je veux jouer à tel sport, je veux... » Pas de problème, on y va. Je veux aller voir pourquoi ce sport t'intéresse. Je veux comprendre. Je veux voir une pièce de théâtre. Papa, je veux devenir ci. Parfait. Assoyons-nous et regardons si c'est possible. Intéressez-vous à ce qu'ils font. Nos enfants ne sont pas des moins que rien. Nos enfants comprennent des choses. Nos enfants peuvent nous faire voir des angles morts que nous ne voyons pas nous. Appliquons nos enfants à la discipline. On va lire 2 Timothée 2. Je sais que tu es rapide, Pasteur Yves. 1 à 7. Cet aspect de discipline, je vais m'arrêter dessus quelques minutes parce que c'est important, la discipline. Dans tout, surtout dans nos familles. Toi donc, mon enfant, c'est Paul qui parle à Timothée ici. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Et il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Pourquoi une lettre pastorale dans l'éducation de nos enfants? Je vous explique. Il va dire à Timothée, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans quoi? » Pas dans soi-même. On est très maintenant « je me moi ». Tout ce que je peux, tout ce que je veux, je le peux. Je me dis, attends, mais je ne comprends pas cette philosophie. Je m'excuse si je pète des ballons, mais
Je ne la comprends pas. Il me semble qu'il ne faut pas réfléchir deux minutes pour arriver à une telle solution. Tout ce que je veux, je le peux, juste parce que je le veux. OK. Je veux voler jusqu'au ciel. Attendons, je vais essayer. Il y a des choses qui nous sont impossibles. Ce n'est pas parce que je le veux que je le peux. Est-ce que j'y travaille pour? Est-ce que j'y mets la discipline pour? Est-ce que je me dirige ma vie dans cette direction afin d'atteindre cette chose? Il faudrait plutôt dire, tout ce que je me discipline et je travaille, il se peut que j'y arrive et de la bonne manière. On veut enlever la notion du travail dans nos jeunes. Pourquoi aller à l'école si tout ce que je veux, je vais l'avoir? Pourquoi travailler? Non, Paul va dire à Timothée, au verset 3, « Souffre avec moi. » Apprenez vos enfants à souffrir quand vous souffrez. Ça a l'air dur aujourd'hui. Je sais qu'aucun psychologue va vous le dire, mais pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez vulnérables à certains niveaux aussi à vos enfants. Pas besoin de tout leur raconter. Papa ne va pas bien, maman ne va pas bien. Mais on a l'espoir qu'en Christ et avec Christ, ça va bien aller. Ce faisant, vous apprenez vos enfants dans les difficultés qu'il y a une ressource autre qu'eux-mêmes. Mais le Christ, vous disciplinez vos enfants à comment marcher avec Dieu, à comment regarder des situations difficiles quand il s'agit des problèmes dans votre vie, comment on va vers Dieu. Est-ce qu'on se lamente? Est-ce qu'on pleure? On se dit qu'il n'y a pas d'espoir? Ou est-ce qu'on dit oui, il y a un espoir? Jésus-Christ est notre espérance. Ça, c'est le modèle de parents. Il faut discipliner nos enfants. Et la discipline n'est pas le fouetter ni le mettre au coin, mais la discipline aussi, c'est de lui montrer que même si c'est difficile, il y a de l'espérance. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Christ nous a appelés. Christ, mon fils, peut-être t'appelle. À l'adolescence, nos enfants veulent s'entourer de plein de gens. Ils veulent faire toutes les choses, c'est l'énergie. Ils ont la force et la capacité de pouvoir transporter le monde. Il y a le dicton qui dit « si la jeunesse savait et si la vieillesse pouvait ». Moi, je dis « si les deux ensemble s'y mettaient ». Ça serait cool. Donc, c'est de prendre l'énergie qu'ils ont puis de l'amener dans notre sagesse et voir comment on peut aller plus loin avec nos enfants. Les faire se débarrasser des choses de la vie qui sont inutiles dans leur vie. Ils ont besoin de cette sagesse-là parce qu'à leur âge, tout est possible. De les apprendre qu'il n'y a pas d'athlète qui n'est couronné s'il n'a pas combattu selon les Il y a une discipline à avoir dans la vie. C'est tout à fait faux de faire croire à nos enfants que c'est un free-for-all. Ça, c'est un monde de fous. Il y a des règles dans la vie. C'est pas pour rien que je m'arrête à une lumière rouge. Si je le fais pas, je dis à mes enfants, je risque de pas être là dans deux minutes. J'apprends, on apprend à nos enfants. Non, non. C'est correct, t'es fâché après moi. Mon rôle de père, c'est de te froisser. Ton rôle d'enfant, c'est de m'obéir. Je suis confortable là-dedans parce que je vois un peu plus loin. N'ayons pas peur de mettre nos limites dans la maison. Pourquoi? Mais c'est votre rôle en tant que parent de mettre des limites. Oui, la Bible va dire, n'irritez pas nos enfants, père. N'irritez pas vos enfants. Le but de mettre des limites, c'est pas de les emmerder. Mais c'est plutôt de les cadrer. Il y a une discipline. La consécration, c'est ça. C'est dire que je vais devoir discipliner. Je vais devoir mettre un cadre selon la parole de Dieu. Dans sa grâce. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Les parents. Quel enfant qui aime attendre? Levez la main. Quel enfant qui aime attendre? Quelle question que je viens de poser, hein? C'est quoi ça, attendre? Tout ce qu'ils veulent, ils veulent maintenant. Ma fille m'appelle hier, « Papa, tu peux-tu me faire un transfert? » Je dis, « Un transfert, pourquoi? » Là, je suis avec maman, je viens de voir des Jordan, j'aimerais les acheter. Je suis comme, non. Je m'excuse, mais non. Ah, mais papa, pourquoi non? Parce que j'ai dit non. Pourquoi, Jordan, tu as plein de paires de souliers à la maison? Ah, mais ceux-là, je ne les ai pas. Ah, tu ne les auras pas plus. Il faut dire non. C'est notre rôle. La génération qui n'a jamais appris à se faire dire non, quand ils rentrent dans un couple, le premier non du conjoint, ils se divorcent. Je vous dis une réalité. Ils ne savent pas ce que c'est non. Ils ne savent pas ce que c'est attendre. Quand l'autre conjoint qui vient d'une autre famille, personne n'a appris à... Non, non, attends, on va prier, on va mettre ça devant Dieu, tu vas travailler cet été, on va mettre des sous de côté, puis si tu arrives, mais il t'en manque un peu, je vais t'en donner. Cet enfant-là, il a été élevé à travailler et attendre le fruit, mais il se marie avec quelqu'un d'autre que les parents disaient toujours oui. Bonne chance. Mais ce que la Bible nous apprend, c'est qu'il y a des règles dans la vie. Il y a un travail à faire afin de récolter les fruits. Il faut labourer, patienter, attendre la pluie et attendre que ça pousse. On a les choses trop faciles aujourd'hui. J'ai l'impression que mes enfants pensent que dans ma chambre, la nuit, il y a un arbre qui pousse, il y a de l'argent, je le secoue, puis je le mets dans le portefeuille. Non, ça ne marche pas de même. Venez vous coucher dans notre chambre, vous allez voir, vous ne serez pas plus riche le lendemain. Et j'aime faire la blague en disant à ma fille, « Ah, papa, si un voleur rentre à la maison, il trouve l'argent. » J'ai dit, « Écoute bien, on va juste mettre quelque chose au clair entre vous et moi. Si un voleur qui rentre à la maison, je l'aide à chercher. S'il trouve, on fait moitié-moitié. » Parce que c'est sûr que ce n'était pas à moi. C'est sûr que ce n'était pas à moi. Donc, pas besoin d'avoir peur. Mais apprenez-les la vérité. Apprenez-les combien c'est bon Dieu. Comment Jésus est bon. Comment il faut goûter notre Dieu. Mais notre Dieu est un Dieu d'ordre. La création parle de son ordre. Il nous apprend à travailler, à patienter, à récolter et aussi à en déguster les fruits. C'est bon qu'on patiente. Qu'on trouve la chose qu'on a travaillé pour, ça n'a pas la même valeur que s'il était juste par terre. En terminant, vous savez, la parole de Dieu a un but, l'Évangile a un but, c'est de tourner les hommes vers Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le but qu'on consacre, c'est de dire, Seigneur, je vais être un modèle, je vais marcher devant mes enfants. Nous, en tant que parents, nous allons marcher devant nos enfants afin que, eux, un jour, tu puisses, dans ton amour, dans ta grâce, dans ta bienveillance, devenir tourner leur cœur et leur regard vers toi. C'est le but de l'Évangile. On prêche afin que le monde soit sauvé. C'est ça, le but de l'Évangile. Et Luc 16 va nous dire l'histoire de deux hommes. Un qui était très riche et l'autre qui était pauvre. L'histoire n'est pas une histoire de richesse ou de pauvre. Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on ne sera pas sauvé, ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne sera pas sauvé. Ce n'est pas ça qu'il faut voir dans l'histoire, mais pas du tout. Parce qu'il y a eu des hommes riches, là, Abraham, Job, il y a une femme, Lydia, marchande de pauvres, qui était très, très riche. Ce n'est pas ça. Ce que cette parabole nous dit plutôt, c'est vers quoi et vers quelle idole ton cœur est tourné. Le riche, il était bien décrit vertu de fin lin très cher, de pourpre. La pourpre, c'est un petit coquillage là, qu'on casse et qui donne un petit rouge. Il faut des milliers pour faire une belle couleur. Fait qu'il fallait être très riche pour porter du fin lin et encore du fin lin avec la pourpre. Donc, Jésus amène ces paraboles aux pharisiens pour leur montrer qu'il y a un homme qui a tout eu sur la terre, puis il y en a un autre qui espérait manger des miettes. Et les deux se retrouvent après à deux endroits différents. Un semble être dans un endroit de paix, Lazare, et le riche dans un endroit de tourment. Et l'homme riche va faire un constat. Il va dire, envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau et qu'il m'amène et qu'il m'apaise parce que j'ai soif. Cette soif, ce n'est pas seulement le feu de l'enfer qu'on puisse imaginer qu'il a tellement chaud qu'il a soif, mais l'enfer, c'est être séparé de Dieu. Être séparé de notre source qui nous nourrit constamment, qui nous donne cette source d'eau qui jaillit en nous jusqu'à la vie éternelle. C'est d'être séparé complètement de Dieu. C'est ce que l'enfer. Donc, tous ceux qui vivent aujourd'hui séparés de Dieu, vous avez déjà un avant-goût de l'enfer. Et ceux qui vivent accompagnés de Dieu, vous avez déjà un avant-goût de la félicité de Dieu. Et aujourd'hui, mon message, la consécration, ce que je veux, c'est vous amener à comprendre qu'aujourd'hui, vous aussi, vous pouvez tourner votre regard vers Dieu. Et il n'est pas trop tard. Par vous-même aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Vous pouvez tourner votre regard vers Dieu. Pendant que les musiciens vont s'avancer pour chanter ce chant, sa bienveillance au Éternel, je vais vous demander de fermer les yeux et de prendre un temps en vous et dire, Seigneur, est-ce que j'ai déjà fait la paix avec toi? Est-ce que ce matin, j'ai un avant-goût du ciel où j'ai un avant-goût déjà de l'enfer dans ma vie. Il va dire, Père Abraham, envoie quelqu'un des morts leur prêcher l'Évangile. Peut-être ils viendront, il va dire, même si ceux qui viennent des morts allaient leur prêcher l'Évangile, ils ne se tourneront pas. Donc, ce n'est pas moi qui vais tourner ce matin votre cœur vers Dieu, mais c'est plutôt l'Esprit qui va vous tourner vers le Créateur. Donc, baissez la tête, fermez les yeux. Tous ceux qui ne l'ont pas encore reçu, pendant que les têtes sont baissées et les yeux fermés, juste levez la main. C'est le moment de se dire, Seigneur, je veux faire la paix avec toi. Seigneur, je ne t'ai pas encore reçu dans ma vie, je ne te connais pas, mais j'aimerais te connaître. J'aimerais faire cette connaissance avec toi pour ne plus rester du côté de la séparation. Ce matin, vraiment, prenez le temps. Il n'y a rien qui presse. Il n'y a que l'Esprit qui peut vous tourner vers le Christ. Donc, si vous n'avez pas encore fait la paix, si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur dans votre vie comme votre seul sauveur, je vous invite à lever la main et je vais prier pour tous ceux qui auront la main levée. Prenez le temps. Vous voulez faire la paix avec Dieu ce matin, c'est un moment propice. Que Dieu va vous toucher, vous allez venir dans la famille du Seigneur et vous allez faire partie de cette famille si nombreuse déjà, mais si agréable. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de problème, comme j'ai dit. Ça ne veut pas dire que tout va aller, mais vous avez aujourd'hui une espérance que pour les prochaines fois, quand ça va aller mal, vous avez un sauveur. Vous avez un Seigneur. On a les têtes sont baissées. Et s'il y en a qui lèvent la main, on va prier. Seigneur, tu connais les cœurs. Tu vois les gens, Seigneur. Tu connais leur cœur vraiment, Seigneur. Tu sais ce que tu as appelé. Tu connais ceux, Seigneur, qui sont à toi. Et si vous avez levé les mains, si vous avez dans votre cœur d'accepter, dites simplement, Seigneur, je reconnais que je suis perdu. Je reconnais sans toi, Seigneur, je suis directement dans le camp du malin. Je sais, Seigneur, que je marche à l'encontre de tes voies. Mais Seigneur, aujourd'hui, aie pitié de moi. Permets que je puisse, Seigneur, changer de direction. Prends ma main. Conduis-moi dans les voies de l'éternité. Seigneur, je reconnais
mon péché. Seigneur, je te demande pardon d'avoir résisté pendant toutes ces années. Pendant toutes ces années où ce que j'ai refusé, aujourd'hui, Père, je te prie, pardonne-moi et conduis-moi sur ton chemin. Et je te prie dans le nom de ton Fils, Jésus. À lui la gloire, l'honneur, la majesté, au siècle des siècles.